Chapitre 4. Message. Le roi Servant Vérité quitta Castelcerf au début du troisième hiver de la guerre contre les pirates rouges. Il emmenait une petite troupe de compagnons triés sur le volet pour l'escorter dans sa quête, plus sa garde personnelle qui le suivrait jusqu'au royaume des montagnes et y demeurerait en attendant son retour. Selon son raisonnement, une petite expédition nécessitait un train des équipages réduits, et pour traverser le royaume des montagnes en plein hiver, il fallait pouvoir transporter soi-même ses vivres. Il avait aussi décidé de ne pas se présenter aux anciens sous un aspect martial. À part ses compagnons de route, peu de personnes furent mises dans la confidence du véritable but de sa mission. Pour le grand public, il se rendait au royaume des montagnes afin de passer un traité avec le roi Iod, le père de sa reine, à propos d'une éventuelle aide militaire contre les pirates rouges. Des membres de son escorte, plusieurs valent d'être mentionnés. Od, maîtresse d'armes de Castelcerf, fut un des premiers choisis. Son talent tactique ne connaissait d'égal nulle part dans le royaume, et sa technique guerrière était remarquable malgré son âge. Charim, le valet de vérité, servait son maître depuis si longtemps et avait participé à tant de ses campagnes qu'il était inconcevable qu'il ne partît pas. Maron, aussi brun que son nom, faisait partie de la garde militaire du prince depuis plus d'une décennie. Il lui manquait un œil et une oreille presque tout entière, mais cela ne l'empêchait pas de paraître deux fois plus vif que quiconque. Kif et Kef, nés jumeaux, et, comme Maron, membre de la garde de vérité depuis des années, l'accompagnaient aussi. Burik, le maître des écuries de Castelcerf, se joignit à la troupe de son propre chef. Des voix s'élevèrent pour protester contre son départ, mais il répondit qu'il laissait un homme compétent en charge des écuries et que le prince aurait besoin de quelqu'un de versé dans la science des animaux afin que les bêtes achèvent vivantes la traversée du royaume des montagnes en plein hiver. Il souligna également ses aptitudes de guérisseur et son passé d'homme lige du prince chevalerie. Mais ce dernier point n'était connu que de rares personnes. La veille de son départ, Vérité me fit convoquer à son bureau. « Tu n'approuves pas mon expédition, n'est-ce pas? Pour toi, c'est vouloir décrocher la lune, » me dit-il en guise de salut. Je ne pus m'empêcher de sourire. Sans le savoir, il avait exactement reproduit la formulation à laquelle je pensais. « Je reconnais nourrir de graves doutes, » répondis-je sans m'engager. « Moi aussi. » Mais que puis-je faire d'autre? Maintenant, j'ai au moins l'occasion d'agir personnellement, plutôt que de croupir dans cette satanée tour et d'artiser en me tuant à petit feu. Il avait passé les derniers jours à recopier minutieusement la carte de Ketriken. Il la roula soigneusement et la rangea dans un étui en cuir. J'étais stupéfait des changements que la semaine écoulée avait opérés en lui. Ses cheveux était toujours aussi grisonnant, son corps toujours aussi affaibli et usé par trop de longs mois sans bouger. Mais il se déplaçait désormais avec énergie, et lui et Ketriken avaient honoré chaque soir la grande salle de leur présence depuis que la décision avait été prise. Ça avait été un bonheur de le voir manger avec appétit et siroter un verre de vin pendant que Velours ou un autre ménestrel nous divertissait. Un autre appétit qu'il avait recouvré, c'était la tendresse qu'il partageait à nouveau avec Ketriken. À table, la reine servante quittait rarement son seigneur des yeux, et tandis que les ménestrels chantaient, ses doigts reposaient toujours sur le bras de vérité. En sa présence, elle rayonnait comme une chandelle allumée, et j'avais beau protéger mon esprit, je ne percevais que trop clairement le plaisir qu'ils prenaient à leur nuit. J'avais tenté de me mettre à l'abri de leur passion en m'immergeant en Molly, mais je n'en tirais pour tout résultat qu'une culpabilité accrue à voir Molly se réjouir de mon ardeur renouvelée. Comment réagirait-elle si elle savait que mes appétits n'étaient pas entièrement les miens? L'art. J'avais été mis en garde contre son pouvoir et ses pièges, contre la séduction qu'il pouvait exercer au point de vider l'artiseur de tout désir, sauf de celui de s'en servir. Mais personne ne m'avait prévenu de la situation où je me trouvais. Par certains côtés, j'aspirais au départ de vérité afin de retrouver l'intégrité de mon âme. Ce que vous faites dans votre tour n'a pas moins d'importance. Si seulement les gens pouvaient comprendre que vous vous sacrifiez pour leur bien. Comme toi-même, je le comprends trop bien. Tu es devenu très proche de moi cet été, mon garçon. Plus que je ne l'aurais cru possible. Plus que quiconque depuis la mort de ton père. Plus encore que vous ne vous en doutez, mon prince. Mais ces mots-là, je ne les prononçais pas. C'est vrai. J'ai une faveur à te demander. Ou plutôt deux. Vous savez que je ne vous les refuserai pas. Ne dis pas ça trop facilement. La première, c'est de veiller sur madame. Elle connaît mieux la façon de penser de Castelcerf, mais elle est encore beaucoup trop confiante. Protège-la jusqu'à mon retour. Point n'est besoin de me le demander, mon prince. Et la deuxième. Il prit une inspiration, puis soupira. Je voudrais essayer de rester ici dans ton esprit le plus longtemps possible. Mon prince, j'hésitais. Il avait raison, cette faveur-là, je n'avais aucune envie de la lui accorder. Mais j'avais déjà accepté. Et je savais que, pour le bien du royaume, c'était une démarche sensée. Mais pour moi-même. Déjà, j'avais senti les frontières de ma personnalité s'effriter devant la puissante présence de vérité. Et là, il n'était plus question d'un contact de quelques heures ou quelques jours, mais de plusieurs semaines, et vraisemblablement de plusieurs mois. Était-ce ce qui attendait les membres d'un clan? Cessait-il, au bout d'un moment, d'avoir une existence à part? Et ceux de votre clan? Fis-je à mi-voix. Eh bien, rétorqua-t-il, je les laisse en place pour l'instant. Dans les tours de guet et sur mes navires. S'ils ont des messages à transmettre, ils les enverront à Sereine. En mon absence, elle les portera à Subtil. Et s'ils croient devoir m'informer de quelque chose, ils peuvent m'artiser. Il se tut un moment. Il y a d'autres renseignements que j'aimerais pouvoir obtenir à travers toi. Des renseignements dont je préfère qu'ils demeurent privés. Des nouvelles de sa reine, songeais-je. La façon dont Royal emploiera ses pouvoirs en l'absence de son frère. Les rumeurs et les intrigues du château. En un sens, de petits riens, mais de petits riens qui assuraient sa position. Pour la millième fois, je regrettais de ne pas savoir artiser de façon sûre et de mon propre chef. Si je l'avais su, Vérité n'aurait pas été obligée de me demander ce service. J'aurais été capable de le contacter à tout moment, mais, en l'occurrence, le lien d'art mis en place par le toucher dont nous avions usé pendant tout l'été était notre seule ressource. Grâce à lui, Vérité pouvait s'informer à loisir de ce qui se passait à Castelcerf et moi recevoir des instructions de mon prince. J'hésitais, mais je savais déjà que je m'inclinerais. Par loyauté pour lui et les six duchés, me dis-je, pas à cause d'une attirance pour l'art que je ne ressentais d'ailleurs pas. Je croisais son regard. J'accepte. Tu sais que c'est ainsi que ça commence, dit-il. Ce n'était pas une question. Nous lisions déjà l'un dans l'autre avec grande précision. Il n'attendit pas ma réponse. Je me ferai aussi discret que possible. Je m'approchai de lui. Il leva la main et me toucha l'épaule. Vérité était de nouveau en moi, comme il ne l'était plus consciemment depuis le jour où, dans son bureau, il m'avait ordonné de me protéger. Le jour du départ, il faisait un froid sec, mais le ciel était d'un bleu limpide. Vérité, fidèle à sa parole, avait limité l'importance de son expédition. Des cavaliers avaient été dépêchés le lendemain du conseil pour le précéder sur son chemin, et ordonné qu'on lui prépare vivres et logements dans les villes qu'il traverserait, afin de lui permettre de voyager vite et sans se charger inutilement au travers de la plus grande partie des six duchés. Quand la colonne s'ébranla par ce froid matin d'hiver, seul, de toute la foule, je ne criais pas adieu à Vérité. Il était niché au creux de mon esprit, petit et silencieux comme une graine qui attend le printemps, presque aussi discret qu'œil de nuit. Kétriken avait choisi d'assister au départ du haut des murs givrés du jardin de la reine. Elle lui avait fait ses adieux un peu plus tôt et avait préféré s'isoler afin que, si elle pleurait, personne ne risque de mal interpréter ses larmes. Debout à ses côtés, j'endurais les échos de ce qu'elle et Vérité avaient enfin partagé toute la semaine. J'étais à la fois heureux pour elle et malheureux que ce qu'elle avait si récemment découvert lui fût si vite enlevé. Chevaux, hommes, animaux de bât et bannières disparurent enfin derrière un épaulement, et ce que je perçus alors me fit courir un frisson glacé le long de l'échine. Kétriken cherchait à toucher Vérité par le vif. Très faiblement, il est vrai, mais suffisamment pour que, quelque part dans mon cœur, œil de nuit se redresse, les yeux embrasés, et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Rien. Rien qui nous concerne, en tout cas. J'ajoutais « Nous chasserons bientôt ensemble, mon frère, comme cela ne nous est pas arrivé depuis longtemps. » Pendant quelques jours après le départ de la troupe, je retrouvais presque une existence personnelle. L'absence de Burik m'avait inspiré de vives inquiétudes. Je comprenais ce qui le poussait à suivre son roi servant, mais, de les savoir partis, lui et Vérité, je me sentais désagréablement exposé. Ce qui m'en apprenait plus long sur moi-même que je n'avais envie d'en savoir. Mais l'avantage de la situation, c'était qu'avec Burik au loin et la présence de Vérité roulée serrée en moi, œil de nuit et moi avions enfin toute liberté d'user du vif. Presque tous les matins, à l'aube, j'étais avec lui, à des milles du château. Les jours où nous traquions les forgisés, je montais suie, mais elle ne se sentait jamais complètement à l'aise au voisinage du loup. Au bout de quelque temps, les forgisés se firent plus rares et cessèrent de venir dans notre région, et nous pûmes chasser pour nous-mêmes. J'allais alors à pied, car nous étions ainsi plus proches l'un de l'autre. Œil de nuit était ravi de la forme physique que j'avais acquise au cours de l'été, et cet hiver-là, pour la première fois depuis la tentative d'empoisonnement de Royal, je me sentis en pleine possession de mon corps et de mes forces. Les matinées vigoureuses à la chasse et les noires heures de la nuit en compagnie de Molly auraient suffi au bonheur de n'importe qui. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans ce genre de joie simple. J'aurais voulu, je crois, que ma vie soit toujours aussi simple et heureuse, et je m'efforçais de ne pas penser aux dangers qui m'entouraient. Le beau temps qui durait, me disais-je, assurerait un bon départ au voyage de Vérité, et j'évitais de me demander si les pirates rouges en profiteraient pour lancer une attaque de fin de saison. Je fuyais également Royal, et la soudaine survenue de fêtes et de réceptions qui bondaient Castelserre de ses amis et faisaient brûler les torches de la grande salle tard dans la nuit. Sereine et Justin, eux aussi, faisaient des apparitions plus fréquentes dans les parties communes du château, et je ne pouvais entrer dans une pièce où ils se trouvaient sans me sentir percer des flèches de leur aversion. Aussi, finis-je par me détourner des salles où l'on se réunissait le soir et où j'étais assuré de les rencontrer, eux ou les invités de Royal, venus grossir notre cour hivernale. Vérité avait entamé son voyage depuis 2 jours à peine, quand j'entendis des rumeurs affirmant que le véritable but de son entreprise était de trouver les anciens. Je ne pouvais les imputer à Royal. Les compagnons que Vérité s'était choisis connaissaient leur vraie mission, mais Burik, lui, en avait découvert seul l'objectif, et s'il en était capable, d'autres aussi qui pouvaient ensuite répandre la nouvelle. Cependant, lorsque je surpris 2 garçons d'office en train de railler la folie du roi Sagesse et les inventions du prince Vérité, je soupçonnai Royal d'être l'auteur de l'expression. À force d'artiser, Vérité s'était coupée du monde. Les gens se demandaient ce qu'il faisait à rester tout seul si longtemps dans sa tour. Bien sûr, il savait qu'il pratiquait l'art, mais c'était un sujet qui manquait de saveur pour les ragots. En revanche, son expression préoccupée, ses horaires singuliers de repas et de repos, sa façon d'errer sans bruit dans le château pendant que chacun dormait, tout cela fournissait autant de grains à moudre au moulin à Cancan. Avait-il perdu l'esprit? S'était-il lancé à la poursuite d'une hallucination? Les spéculations allaient bon train, et Royal les alimentait d'un terreau fertile. Il inventait toutes sortes de prétextes pour tenir banquets et réunions de nobles amis. Le roi subtil était rarement assez bien pour y apparaître, et Ketriken n'appréciait pas la compagnie des laquais à l'esprit brillant dont Royal s'entourait. Pour ma part, je m'en tenais prudemment à l'écart. Je n'avais qu'Imbre à qui faire part de mon irritation quant au coût de ces festivités, alors que, selon Royal, le trésor contenait à peine de quoi payer l'expédition de vérité. Imbre se contentait de secouer la tête. Il était devenu réservé ces derniers temps, même avec moi, et j'en retirais l'impression désagréable qu'il me cachait quelque chose. En soi, qu'il ait un secret n'avait rien de nouveau. Le vieil assassin en était encombré. Mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que celui-ci avait un rapport direct avec moi. Aussi, comme je ne pouvais interroger Imbre ouvertement, je l'observais. À divers signes, je notais qu'il se servait abondamment de sa table de travail lorsque je n'étais pas là. Plus intrigant, tout désordre associé à son activité avait disparu quand il m'appelait chez lui. C'était extraordinaire. Depuis des années, je passais derrière lui pour nettoyer les conséquences de ses cuisines. Qu'il s'en charge désormais lui-même m'apparaissait soit comme une méchante nasarde, soit comme une tentative pour dissimuler les travaux qui l'occupaient. Je ne pus résister au besoin de l'observer chaque fois que j'en avais l'occasion, et si je n'appris rien sur son secret, je vis soudain bien des choses qui m'avaient jusque-là échappé. Imbre vieillissait. La raideur des articulations que lui occasionnait le temps froid ne cédait plus aux soirées douillettes au coin du feu. Demi-frère de Subtil, bâtard comme moi, il était l'aîné du roi, mais, malgré sa souplesse faiblissante, il paraissait le plus jeune des deux. Néanmoins, il tenait maintenant les manuscrits plus loin de ses yeux quand il lisait, et il évitait de lever les bras au-dessus de sa tête pour attraper tel ou tel ustensile. Ces changements que je remarquais m'étaient aussi pénibles que le fait de savoir qu'il me scellait un secret. 23 jours après le départ de Vérité, au retour d'une chasse débutée à l'aurore avec œil de nuit, je trouvais le château en commotion. On se serait cru au milieu d'une fourmilière qu'on a dérangée, mais sans l'impression d'ordre et de détermination que dégage l'activité des fourmis. Je me rendis aussitôt auprès de Sarah la cuisinière, dite Mijotte, pour lui demander ce qui s'était passé. Après la salle des gardes, les cuisines d'un château sont le pivot du moulin à rumeur. À Castelserre, les commérages des cuisines étaient en général les plus exacts.
Un cavalier est arrivé tout à l'heure sur un cheval plus qu'à demi-mort. Il a dit que Bac avait été attaqué et que les incendies avaient presque entièrement détruit la ville. Il y aurait 70 fourgisés. Combien de morts, ça, on n'en sait rien. Mais il y en aura encore, avec tous ceux qui sont sans abri par ce froid. Il y avait 3 navires pleins de pirates d'après le gosse. Il est allé tout droit raconter tout ça au prince royal, et le prince l'a envoyé ici manger un morceau. Il roupille dans la salle des gardes maintenant.
Elle baissa la voix.
Ce gamin, il a fait tout ce chemin tout seul. On lui a donné des chevaux frais dans les villes qu'il a passées sur la route de la côte. Mais il n'a jamais voulu que quelqu'un d'autre se charge du message. Il m'a dit qu'à chaque étape, il pensait voir de l'aide arriver, entendre quelqu'un dire qu'on était au courant et qu'on avait envoyé des bateaux à l'aide, mais il n'y avait rien.
Il vient de Bac? Alors ça s'est passé il y a au moins 5 jours. Pourquoi n'a-t-on pas allumé les feux d'alarme des tours? Demandai-je la voix tendue. Ou dépêché des oiseaux messagers à Mouette et à Baie aux Phoques? Le roi servant Vérité avait laissé un navire de patrouille dans la région. La vigie aurait dû apercevoir les feux de Mouette ou de Bac. Et puis il y a un membre du clan, Guillot à la Tour Rouge. Il aurait dû les voir, lui aussi, et prévenir Sereine. Comment se fait-il que nous n'ayons pas été prévenus, que nous n'ayons entendu parler de rien? Mijotte baissa encore le ton et appliqua une claque pleine de sous-entendus à la pâte à pain qu'elle pétrissait. Le gars dit que les feux étaient allumés à Bac et à Glaceville. Il dit aussi qu'on a envoyé les oiseaux à Mouette, mais qu'aucun bateau n'est venu. Mais alors, pourquoi n'avons-nous rien su? Je pris une inspiration hachée pour repousser ma vaine colère. En moi, je sentis un vague mouvement d'inquiétude de la part de Vérité. Trop vague. Le lien d'art s'affaiblissait à l'instant où je l'aurais voulu solide. Enfin, ça ne sert à rien de poser ces questions pour le moment. Qu'a fait Royal? Il a fait appareiller le rurisque? J'aurais bien aimé les accompagner. Avec un grognement de dérision, Mijotte écrasa la patte.
« Tu peux encore y aller, va. Tu ne seras pas en retard. Rien n'a été fait. Personne n'a été envoyé à ce que je sais. On n'a envoyé personne et on n'enverra personne. Personne. Tu me connais. Je ne suis pas mauvaise langue, Fitz, mais on raconte que le prince royal était au courant, lui. » Quand le gamin est arrivé à ça, le prince était tout miel et tout compatissant, à en faire fondre le cœur des dames. Un repas, un manteau neuf, une petite bourse pour sa peine. Mais il a dit au gamin que c'était trop tard, que les pirates devaient être partis depuis Belle Lurette et que ça ne servirait à rien d'envoyer un navire ni des soldats.
Trop tard pour les pirates peut-être, mais pour les victimes de l'incendie. Une troupe d'ouvriers pour aider à remettre les maisons en état, des chariots de vivres.
Paraît qu'il n'y a pas d'argent.
Mijotte parlait en détachant nettement chaque mot. Elle se mit à découper la pâte en petits rouleaux qu'elle plaquait sur la table pour les faire lever.
Paraît que le trésor a fondu à fabriquer des bateaux et à recruter des équipages. Paraît que Vérité a englouti ce qu'il restait dans son expédition pour trouver les anciens.
Mijotte prononça ce dernier mot avec un mépris cinglant. Elle s'interrompit le temps de s'essuyer les mains sur son tablier.
Il a dit qu'il regrettait sincèrement. « Très sincèrement !»
Une rage froide déroula ses anneaux en moi. Je tapotai affectueusement Mijotte sur l'épaule, en l'assurant que tout allait s'arranger. Hébété, je quittai les cuisines et me rendis au bureau de Vérité. Devant la porte, je m'arrêtai, à l'écoute. J'avais perçu un net contact de la volonté de Vérité. Au fond d'un tiroir, je trouverai un collier d'émeraude très ancien, aux pierres à monture d'or qui avait appartenu à la mère de sa mère. Il suffirait pour engager des hommes et acheter du grain à envoyer avec eux. J'ouvris la porte et m'arrêtai à nouveau. Vérité était quelqu'un de désordonné, et il avait emballé ses affaires en hâte. Charim l'accompagnait et n'avait pas rangé derrière lui. Ce que je voyais ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre. Aux yeux d'un étranger, rien, ou presque, n'aurait pas paru étrange, mais je contemplais la pièce à la fois avec mes yeux et ceux de Vérité, et elle avait été fouillée. Celui qui s'en était chargé ne se souciait pas de discrétion, ou bien il ne connaissait pas bien Vérité. Chaque tiroir était proprement poussé à fond, chaque meuble fermé, la chaise tirée contre la table, tout était trop net. Sans guère d'espoir, j'ouvris le tiroir désigné. Je le tirai entièrement, et scrutait le coin au fond. C'était peut-être le désordre même de Vérité qui avait sauvé le bijou. Je n'aurais pas pensé à chercher un collier d'émeraude dans un fatras qui comprenait, entre autres, un vieil éperon, une boucle de ceinture cassée et un morceau d'andouillé à demi taillé en manche de poignard. Il était bien là, enveloppé dans un bout de tissu de ménage. Il y avait également d'autres objets, petits, mais de valeur qu'il valait mieux sortir de la pièce. En les rassemblant, je m'étonnais. Si on ne s'en était pas emparé, quel était le but de la fouille? Si ce n'était pas les bijoux, quoi? Méthodiquement, je triais et choisis une dizaine de cartes sur vélin, puis en décrochais plusieurs autres des murs. Alors que j'enroulais une délicatement, Ketriken entra sans bruit. Le vif m'avait averti de sa présence avant même qu'elle touche la porte. Si bien que je me retournais vers elle sans surprise. Je résistais fermement aux émotions de Vérité, qui firent soudain irruption en moi. La voir parut raffermir sa présence en moi. Elle était merveilleusement belle, pâle et mince dans une robe en laine bleu pastel. Je repris mon souffle et détournai les yeux. Elle m'adressa un regard interrogateur. Vérité voulait que je mette ses cartes à l'abri pendant son absence. L'humidité risque de les abîmer, et son bureau est rarement chauffé quand il n'est pas là, expliquai-je en achevant de rouler le parchemin. Elle hocha la tête. Cette pièce est si vide et si froide sans lui. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de feu. Je ne retrouve plus son odeur, sa pagaille. Vous avez donc rangé ? Demandai-je en m'efforçant de prendre l'air dégagé.
Non, elle éclata de rire. Si je range, je ne fais qu'anéantir le peu d'ordre qu'il fait régner ici. Non, je laisse cette pièce telle qu'elle est. Je veux qu'à son retour, il retrouve toutes ses affaires à leur place.
Son visage devint grave. Mais ce bureau est le cadet de mes soucis pour l'instant.
J'ai envoyé un page vous chercher, mais vous étiez sorti. Avez-vous entendu les nouvelles de Bach ?
Léon dit seulement, répondis-je.
Alors, vous en savez autant que moi. On n'a pas jugé utile de me prévenir,
ajouta-t-elle d'un ton glacé. Puis elle se tourna vers moi, et il y avait de la douleur dans ses yeux.
J'en ai appris la plus grande partie de la bouche de Dame Pudeur, qui avait surpris une conversation entre sa femme de chambre et le valet de Royal. Les gardes sont allés avertir Royal de l'arrivée du messager. N'aurait-il pas dû m'envoyer chercher? N'ai-je donc rien d'une reine à leurs yeux?
Ma reine, fis-je d'un ton apaisant. Normalement, le message aurait dû être directement transmis au roi subtil. Je pense qu'il l'a été, mais que les sbires de Royal qui surveillent la porte du roi ont envoyé chercher le prince plutôt que vous.
Elle releva la tête. Il faut donc y remédier. On peut être deux à jouer à ces jeux de vilains.
Je me demande si d'autres messages se sont semblablement égarés, dis-je, en réfléchissant tout haut. Ses yeux bleus devinrent un gris glacial.
Comment cela?
Les oiseaux messagers, les feux d'alarme, une transmission d'art entre Guillot à la Tour Rouge et Sereine, par l'un ou l'autre de ces moyens, nous aurions dû être avertis de l'attaque sur Bac. L'un d'eux aurait pu ne pas fonctionner, mais les trois en même temps.
Kétriken blêmit lorsqu'elle comprit le sous-entendu. Le duc de Béarn va croire qu'on a refusé de répondre à son appel.
Elle porta la main à sa bouche et murmura entre ses doigts.
C'est une fourberie destinée à salir le nom de vérité.
Ses yeux s'agrandirent et elle siffla soudain.
Je ne le tolérerai pas!
Elle se précipita vers la porte avec fureur et j'eus à peine le temps de bondir en travers de son chemin, dos à la porte.
Madame, ma reine, je vous en supplie, attendez.
Prenez le temps de réfléchir.
De réfléchir à quoi? À la meilleure façon de révéler tout l'abîme de sa perfidie?
Nous ne sommes pas dans la position idéale pour le faire. Raisonnez avec moi. Vous êtes d'avis, comme moi, que Royal doit avoir eu vent du raid et qu'il n'en a rien dit, mais nous n'en avons pas de preuve, pas la moindre. Et nous nous trompons peut-être. Il nous faut avancer à pas compter, pour éviter des dissensions dont nous n'avons nul besoin. Le premier à qui s'adresser, c'est le roi subtil. Il faut vérifier s'il est au courant de l'affaire, s'il a autorisé Royal à parler en son nom.
Il ne ferait pas une chose pareille,
s'exclama-t-elle avec colère. Il n'est pas lui-même souvent, lui rappelai-je. Mais c'est à lui, et non à vous, de réprimander Royal publiquement, si cela doit se faire officiellement. Si vous accusez le prince, et que le roi le soutienne par la suite, les nobles verront les loin-voyants comme une maison divisée. Or, on n'a déjà que trop semé le doute et la discorde parmi eux. Vérité absent, ce n'est pas le moment de dresser les duchés de l'intérieur contre ceux de la côte. Elle se figea. Elle tremblait toujours de rage, mais au moins, elle m'écoutait. Elle inspira longuement et je sentis qu'elle s'efforçait de se calmer.
C'est pour cela qu'il vous a laissé ici, Fitz, pour m'aider à débrouiller ces questions.
Comment ? Ce fut mon tour de rester interloqué.
Je pensais que vous le saviez. Vous avez dû vous étonner qu'il ne vous ait pas prié de l'accompagner.
C'est parce que je lui avais demandé à qui me fier comme conseiller, et il m'a répondu de vous faire confiance.
J'étais surpris.
Avait-il oublié l'existence d'Imbre ? Puis, je me souvins que Kétriken ignorait tout du maître assassin. Vérité devait considérer que je servirais d'intermédiaire. À cette pensée, je perçus au fond de moi l'acquiescement de vérité.
Imbre. Dans l'ombre, comme toujours.
Continuons de réfléchir, m'ordonna-t-elle. Que va-t-il se passer maintenant? Elle avait raison. Il y avait des conséquences. Nous allons recevoir la visite du duc de Béarn et de ses vassaux. Le duc de Brandy n'est pas homme à déléguer ce genre de mission à des émissaires. Il va venir en personne exiger des réponses. Et tous les ducs de la côte seront à l'affût de ce que nous lui dirons. Sa côte est la plus exposée de toutes, celle de Serre mise à part.
Alors, nous devons avoir à leur fournir des réponses qui vaillent d'être entendues, dit Kétriken.
Elle ferma les yeux, porta un moment les mains à son front, puis les plaqua sur ses joues. Et je me rendis soudain compte qu'elle faisait tous les efforts pour se dominer. Dignité, se répétait-elle. Calme et rationalité. Elle reprit son souffle et me regarda.
« Je vais voir le roi subtil, » déclara-t-elle. « Je vais lui demander des réponses sur tout, sur toute la situation. Je vais m'enquérir de ce qu'il compte faire. C'est le roi. Il faut assurer sa position. »«
C'est une sage décision, » fis-je.
« Je dois m'y rendre seul. Si vous m'accompagnez, si vous restez toujours auprès de moi, j'en paraîtrai faible, et cela risque de donner naissance à des rumeurs de division dans la royauté. Vous comprenez ?»«
Oui. » J'avais pourtant fort envie d'entendre ce que Subtil pourrait lui dire. Elle indiqua les cartes et les autres objets que j'avais mis de côté sur la table.
« Avez-vous un endroit sûr où les ranger ?»«
Chez Imbre. » »«
Oui. » »« Bien. »
Elle fit un geste de la main, et je m'aperçus que je lui barrais toujours le passage. Je m'écartai. Quand elle passa près de moi, son parfum de Montplaisante me submergea un instant. Mes genoux se mirent à trembler, et je maudis le sort qui envoyait ces émeraudes rebâtir des maisons alors qu'elles auraient dû parer cette gorge gracieuse. Mais je savais aussi, et j'en éprouvais une violente fierté, que si je les déposais entre ses mains en cet instant, elle exigerait qu'on les porte à Bac. Je fourrai le collier dans ma poche. Peut-être parviendrait-elle à éveiller le courroux de Subtil qui obligerait Royal à décadenasser le trésor. Peut-être à mon retour, ces émeraudes pourraient-elles encore orner cette tiède chair. Si Ketriken s'était retournée, elle aurait vu le Fitz rougir des pensées de son époux. Je descendis aux écuries. J'y avais toujours trouvé l'apaisement et, Burig parti, je me sentais une certaine obligation d'aller y jeter un coup d'œil de temps en temps, bien que Pogne n'eût en aucune façon démontré qu'il avait besoin de mon aide. Mais cette fois, comme je m'approchais des portes, je vis un groupe d'hommes massés devant elle, et j'entendis des exclamations coléreuses. Un jeune garçon d'écurie s'accrochait au licol d'un immense cheval de trait, tandis qu'un autre garçon plus âgé tirait sur une longe attachée au licou pour arracher l'animal à l'enfant, le tout sous le regard d'un homme aux couleurs de la bourre. Ces tiraillements contraires commençaient visiblement à énerver la bête habituellement placide. Un accident allait se produire sous peu. Je m'interposais sans hésiter, pris la longe des mains de l'adolescent surpris et calmai mentalement le cheval. Il ne me connaissait plus aussi bien qu'auparavant, mais mon contact le tranquillisa. « Que se passe-t-il ici ? » fis-je en m'adressant au petit lad.
« Ils sont arrivés, et ils ont sorti Falaise de son box sans demander la permission. C'est le cheval dont je dois m'occuper tous les jours, mais ils ne m'ont même pas dit ce qu'ils voulaient en faire. »«
J'ai des ordres, » intervint l'homme. Je lui coupai la parole. « Je parle avec quelqu'un. »
Et je me retournai vers le garçon. « Est-ce que Pogne t'a laissé des instructions à propos de ce cheval ?»«
Celle de d'habitude, c'est tout. »
Le jeune lad était au bord des larmes à mon arrivée sur les lieux, mais à présent qu'il avait un allié potentiel, sa voix reprenait de la fermeté. Il se redressa et me regarda dans les yeux. « Dans ce cas, tout est simple. Nous ramenons le cheval dans son box en attendant de nouveaux ordres de Pogne. Aucune bête ne sort des écuries de Castelserre sans le consentement du maître d'écurie en charge. » L'enfant n'avait pas lâché le licol de Falaise, et je lui plaçai la longe entre les mains.
« C'est bien ce que je pensais, messire, »
pépia-t-il. Il fit demi-tour.
« Merci, messire. Viens, Falaisou. »
Et il s'en alla, le grand cheval marchant pesamment derrière lui.
« J'ai ordre d'emmener cette bête. Le duc Bélier de Labour désire qu'il soit embarqué sur le fleuve sans retard. »
Le personnage aux couleurs de Labour avait l'air très remonté contre moi.
« Ah oui.
Et il s'est mis d'accord avec notre maître d'écurie ?» J'étais sûr que non.
« Qu'est-ce qui se passe ici ?»
C'était Pogne qui arrivait au pas de course, les joues et les oreilles toutes roses. Chez un autre, ça aurait pu prêter à rire. Chez lui, cela signifiait qu'il était en fureur. Le labourien se redressa de toute sa hauteur.
« Cet homme et un de vos garçons d'écurie nous ont empêchés de sortir nos animaux des écuries »
déclara-t-il d'un ton hautain. « Falaise n'appartient pas à Labour. Il a été mis bas, ici, à Castelserre, il y a 6 ans. J'étais là, » observai-je. L'homme m'adressa un regard condescendant.
« Ce n'est pas à vous que je parlais, mais à lui. »
Et du pouce, il indiqua Pogne.
« J'ai un nom, messire, » fit Pogne, d'une voix glaciale. « Pogne, je suis le maître d'écurie en charge tant que Burig est absent avec le roi servant vérité, Et lui aussi, il a un nom. Fitz Chevalerie. Il vient m'aider de temps en temps. Il a tout à fait sa place dans mes écuries. Mon lad aussi, et mon cheval aussi. Quant à vous, si vous avez un nom, personne ne me l'a indiqué, et je ne vois aucune raison à votre présence dans mes écuries. »
Burick avait bien éduqué Pogne. Nous échangeâmes un coup d'œil, et comme un seul homme, tournâmes le dos à l'intrus pour entrer dans le bâtiment.
« Je m'appelle Lance, et je travaille aux écuries du duc Bélier. Le duc a acheté ce cheval, et pas seulement lui. Deux juments truitées, et un hongre aussi. J'ai les parchemins qui le prouvent. »
Nous nous retournâmes lentement. L'homme nous tendait un rouleau. Mon cœur se serra à la vue d'une goutte de cire rouge, où s'imprimait le cachet au cerf. Il avait l'air authentique. Pogne prit le document et me jeta un coup d'œil oblique. Je vins me placer à côté de lui. Il n'était pas illettré, mais lire lui prenait du temps. Burick y travaillait avec lui, mais il n'était pas très doué. J'examinais le manuscrit par-dessus son épaule, tandis qu'il le déroulait et se mettait à l'étudier à son tour.
« C'est on ne peut plus clair !» fit le labourien.
Il tendit la main.
« Dois-je vous le lire ?»«
Ne vous donnez pas cette peine, » répondis-je, cependant que Pogne réenroulait le parchemin. « Ce qui est écrit là-dessus est lumineux, et le prince royal y a apposé sa signature. Mais Falaise ne lui appartient pas. Il fait partie, ainsi que les juments et le hongre, des chevaux de Castelserre. Seul le roi est habilité à les vendre.
Le roi servant vérité est absent. Le prince royal le remplace. »
Je réprimai la réaction de Pogne en lui posant la main sur l'épaule. Le roi servant vérité est absent, en effet. Mais ni le roi subtil, ni la reine servante Quétriquaine. Il faut la signature de l'un ou de l'autre pour vendre un des chevaux des écuries de Castelserre. Lance récupéra son document d'un geste brutal et scruta le paraphe par lequel il s'achevait.
« Mais, enfin, la marque du prince royal devrait suffire, si vérité n'est pas là. Après tout, chacun sait que le vieux roi n'a pas toute sa tête les trois quarts du temps. Et Quétriquaine, eh bien, elle n'est pas de la famille, c'est vrai, non? Alors, comme vérité n'est pas là, c'est royal qui... »«
Le prince royal, » coupai-je sèchement. Ne pas lui donner son titre est un crime de haute trahison. Comme prétendre qu'il serait roi ou reine, alors que c'est faux. Je lui laissai le temps de digérer la menace implicite. Je ne voulais pas l'accuser de trahison, car il serait condamné à mort, et même un crétin bouffi de suffisance comme Lance ne méritait pas de mourir pour avoir bêtement répété ce que son maître disait sans doute tout haut. Je vis ses yeux s'écarquiller.
« Je n'avais pas l'intention de... »«
Et il n'y a nulle offense, » coupai-je, « tant que vous n'oubliez pas que personne ne peut acheter un cheval à qui ne le possède pas. Et ceux-ci sont à Castelserre et appartiennent au roi.
« bien sûr, » répondit Lance tout tremblant. « Je n'ai peut-être pas les bons documents. Il y a sûrement une erreur. Je vais retourner voir mon maître. »«
Sage décision, » dit Pogne, d'un ton calme, en reprenant l'autorité.
« Eh bien, arrive-toi !»
jeta Lance à son lad, en le faisant avancer d'une bourrade. Le garçon nous adressa un regard furieux en suivant son maître. C'était compréhensible. Lance était du genre à passer sa colère sur quelqu'un.
« Tu crois qu'ils vont revenir ?» fit Pogne à mi-voix.
« S'ils ne reviennent pas, Royal devra rendre son argent à Bélier. » Nous méditâmes en silence sur la vraisemblance de cette éventualité.
« Alors, qu'est-ce que je devrais faire quand ils seront de retour ?»«
S'il n'y a que le sceau de Royal, rien. Si le manuscrit porte la marque du roi ou de la reine servante, tu devras leur remettre les chevaux. »
« Mais une des juments est grosse !» protesta-t-il. « Burick a de grands projets pour le poulain. Qu'est-ce qu'il va dire s'il ne trouve plus les chevaux ici en rentrant ?»«
Nous ne devons jamais oublier que ces animaux appartiennent au roi. Il ne te reprochera pas d'avoir obéi à un ordre en bonne et due forme. »
« Je n'aime pas ça !»
Il leva vers moi des yeux inquiets.
« Ça ne se passerait pas comme ça si Burick était ici. »
« Je crois que si, Pogne. Ne te fais pas de reproches. À mon avis, on verra pire avant la fin de l'hiver. Mais fais-moi prévenir s'ils reviennent. » Il hocha la tête d'un air grave et je m'en allai. Tout le plaisir de faire un tour aux écuries s'était envolé.
Je n'avais aucune envie de circuler entre les boxes en me demandant combien de chevaux s'y trouveraient encore au printemps. À pas lents, je traversai la cour, puis pris l'escalier qui menait à ma chambre. Je m'arrêtai sur le palier. Vérité. Rien. Je percevais sa présence en moi, il pouvait me transmettre sa volonté, et parfois même ses pensées, mais quand je cherchais à le contacter, je n'obtenais rien. C'était exaspérant. Si j'avais été capable d'artiser de façon fiable, tout serait différent. Je pris un moment pour me dire avec application Galen et ce qu'il m'avait infligé. J'avais l'art, mais il me l'avait cautérisé et ne m'en avait laissé qu'une forme imprévisible. Pourtant, il restait sereine, et Justin, et tous les autres membres du clan. Pourquoi Vérité ne se servait-il pas d'eux pour se tenir au courant de ce qui arrivait et faire connaître sa volonté? Une angoisse sournoise s'insinua en moi. Les oiseaux messagers de Béarn, les feux d'alarme, les artiseurs des tours de guet, toutes les lignes de communication à l'intérieur du royaume et avec le roi semblaient ne plus fonctionner normalement. Pourtant, c'était elle qui maintenait les six duchés en un seul bloc et en faisait un royaume plutôt qu'une alliance entre ducs. Et aujourd'hui, plus que jamais, en cette époque troublée, nous avions besoin d'elle. Pourquoi nous faisait-elle défaut? Je me promis de poser la question à Imbre en espérant qu'il me convoquerait bientôt. Il m'ouvrait sa porte moins souvent qu'autrefois et je sentais bien qu'il me faisait moins participer à ses réflexions. Mais, après tout, ne l'avais-je pas exclu, moi aussi, d'une grande partie de mon existence? Peut-être mes sentiments n'étaient-ils que le reflet des secrets que je lui dissimulais. Et peut-être cette distance s'instaurait-elle et grandissait-elle naturellement entre assassins. J'arrivai à ma chambre à l'instant où Romarin renonçait à frapper à ma porte. « Tu me cherchais ?» demandai-je. Elle me fit gravement la révérence.
« Madame, la reine servante Kétriken souhaite vous voir au plus tôt qu'il vous conviendra. »«
C'est-à-dire maintenant, c'est ça ?» répondis-je dans l'espoir de lui arracher un sourire.
« Non ?»
Elle me regarda, les sourcils froncés.
« J'ai dit, au plus tôt qu'il vous conviendra, messire. Ce n'est pas comme ça qu'on dit ?»«
Tout à fait. Qui te fait si bien travailler tes manières ?» Elle poussa un grand soupir.
« J'ai repu. »«
Il est déjà revenu de ses tournées d'été ?»«
Il est ici depuis 15 jours, messire. »«
Tu vois combien j'en sais peu. » Je veillerai à lui faire part de tes excellentes manières la prochaine fois que je le verrai.
Merci, messire.
Et elle s'en alla. Oublieuse de sa dignité avant même d'arriver à l'escalier, elle se mit à faire des glissades dans le couloir, puis j'entendis ses pas légers dégringoler les marches comme une cascade de petits cailloux. Elle promettait cette gamine. J'étais certain que j'aurais pu l'éduquer pour en faire une messagère. C'était une de ses tâches de scribe. Je passai un coup de vent dans ma chambre pour prendre une chemise propre, puis me rendis aux appartements de Kétriken. Je frappai à la porte et Romarin m'ouvrit. Le plus tôt qu'il me convient, c'est maintenant, lui dis-je, et cette fois, je fus récompensé par un sourire plein de fossettes.
Entrez, messire, je vais informer ma maîtresse que vous êtes ici.
Elle me fit signe de m'asseoir et s'éclipsa dans la pièce voisine d'où s'échappait un murmure de voix féminine. Par la porte ouverte, j'aperçus ces dames en train de tirer l'aiguille tout en bavardant. La reine Kétriken inclina la tête vers Romarin, puis s'excusa pour venir me rejoindre. L'instant d'après, elle se tenait devant moi. L'espace d'une seconde, je ne pus que la regarder sans réagir. Le bleu de sa robe répondait au bleu de ses yeux. La lumière de fin d'automne qui tombait au travers des motifs convolutés des vitres étincelait sur l'or de ses cheveux. Puis, je m'aperçus que je la dévisageais, et je baissai les yeux, me levai, et enfin m'inclinai devant elle. Elle n'attendit pas que je me redresse.
« Êtes-vous allé voir le roi dernièrement ?»
me demanda-t-elle sans préambule. « Pas depuis quelques jours, ma reine.
Alors je vous conseille d'y aller dès ce soir. Je suis inquiète pour lui. »
« Comme il vous plaira, ma reine. » Et je me tus. Elle ne m'avait sûrement pas fait venir pour me dire cela. Au bout d'un moment, elle soupira.
« Vite, Je suis plus seul que je ne l'ai jamais été. Ne pouvez-vous m'appeler Ketriken et me traiter comme un être humain quelques minutes durant ?
Le subit changement de ton me prit au dépourvu.
« Naturellement, » répondis-je,
mais d'une façon trop formaliste.
« Danger !»
chuchota Œil de Nuit.
« Du danger ? Comment ça ?»«
Ce n'est pas ta femelle, c'est celle de ton chef de meute. »
J'eus la même impression que lorsqu'on découvre une dent cariée du bout de la langue. Tous mes nerfs en furent ébranlés. Il y avait en effet du danger dont je devais me garder. Ketriken était ma reine, mais je n'étais pas vérité. Et elle n'était pas celle que j'aimais, si fou que devint mon cœur quand je la regardais. Mais c'était mon amie. Elle l'avait démontré au royaume des montagnes. Je lui devais le réconfort que deux amis se doivent.
« Je suis allée voir le roi, moi, » reprit-elle.
Elle me fit signe de prendre un siège d'un côté de la cheminée et s'installa de l'autre dans un fauteuil. Romarin alla se chercher son petit tabouret pour prendre place au pied de Ketriken. Nous étions seuls dans la pièce, mais la reine baissa la voix et se pencha vers moi.
Je lui ai demandé sans détour pourquoi on ne m'avait pas averti à l'arrivée du cavalier. Ma question a eu l'air de le laisser perplexe, mais avant qu'il puisse répondre, Royal est entré. Il était venu en toute hâte, c'était visible, comme si l'on s'était précipité pour le prévenir de ma visite et qu'il ait tout laissé en plan pour courir chez Subtil.
Je hochai gravement la tête.
Il a tout fait pour m'empêcher de parler au roi. En revanche, il a insisté pour tout m'expliquer. Il a prétendu que le cavalier avait été amené directement chez le roi et que lui-même l'avait rencontré alors qu'il se rendait chez son père. Il avait envoyé le garçon se reposer tandis qu'il discutait avec le roi, et ils avaient estimé d'un commun accord que plus rien ne pouvait être fait. Alors Subtil l'avait envoyé l'annoncer au garçon et aux nobles assemblés, en leur expliquant l'état du trésor. Si l'on en croit Royal, nous sommes au bord de la faillite, et chaque sou compte. Béarn doit protéger Béarn, m'a-t-il dit, et quand j'ai demandé si les gens de Béarn n'étaient pas des six-duchés, il m'a répondu que Béarn avait toujours plus ou moins fait bande à part. Il n'était pas rationnel, m'a-t-il soutenu, de croire que Serre pouvait défendre une côte si loin au nord et pendant si longtemps. Fitz, saviez-vous que les îles proches avaient déjà été cédées aux pirates rouges ?
Je me dressai d'un bond.
« Je sais que c'est faux !»
dis-je sans pouvoir me retenir.
« Royal prétend le contraire, » poursuivit-elle, implacable. Il dit que Vérité avait jugé, dès avant son départ, qu'il n'existait plus de véritable espoir de les garder des pirates, et que c'est pour cela qu'il avait rappelé le Constance au port. Il affirme que Vérité avait artisé Carod, le membre du clan du navire, afin d'ordonner au bateau de rentrer pour réparation. Il avait été réarmé juste après les moissons, puis il est parti en mer avec mission de protéger la côte entre Béofoc et Mouette, et de se tenir prêt au cas où les îles proches l'appelleraient. C'est ce qu'avait demandé son capitaine. Du temps pour former l'équipage aux manœuvres par temps d'hiver. Vérité n'aurait jamais laissé cette zone sans surveillance. Si les pirates établissent une place forte sur les îles proches, nous ne nous en débarrasserons jamais. De là, ils pourront lancer leurs attaques hiver comme été.
Royal soutient que c'est déjà fait et que notre seul espoir est de négocier avec eux.
Son regard bleu me scrutait. Je me rassis lentement, abasourdi. Y avait-il quelque chose de vrai dans tout cela ? Comment cela aurait-il pu m'échapper ? Au fond de moi, je sentais Vérité tout aussi perplexe. Lui non plus n'était au courant de rien. Je ne crois pas que le roi servant négocierait jamais avec les pirates, sauf avec le fil de son épée.
Il ne s'agit donc pas d'un secret qu'on m'aurait caché pour éviter de m'inquiéter ?
C'est ce que sous-entendait Royal, que Vérité me dissimulait ces choses car elle passait mon entendement. Sa voix tremblait. Au-delà de la colère d'avoir cru les îles proches abandonnées aux pirates, il y avait une douleur plus personnelle, celle d'avoir imaginé que son seigneur pût la considérer comme indigne de ses confidences. J'avais un tel désir de la prendre dans mes bras et de la réconforter que c'en devenait une souffrance. « Madame, dis-je, la voix rauque, prenez ce que je vous affirme comme si c'était Vérité qui parlait. Tout ce que prétend Royal est aussi faux que vous êtes droite. J'irai au fond de cette nasse de mensonges et je la déchirerai. Nous verrons alors quelle sorte de poisson en tombe. »
Puis-je me fier à vous pour mener votre enquête discrètement, Fitz ?
Madame, vous êtes une des rares personnes à connaître la mesure de ma formation en matière d'entreprise secrète.
Elle hocha gravement la tête.
Le roi, comprenez-vous, n'a rien nié. Mais il ne paraissait pas non plus suivre tout ce que disait Royal. On aurait cru un enfant qui écoute la conversation de ses aînés, acquiesce, mais n'y comprend guère.
Elle posa un regard affectueux sur Romarin assis à ses pieds. J'irai voir le roi aussi. Je vous promets de vous rapporter des réponses, et très bientôt.
Avant l'arrivée du duc de Béarn, me rappela-t-elle, il me faut savoir la vérité à ce moment-là. Je lui dois au moins cela.
Nous aurons davantage que la simple vérité à lui fournir, ma reine, répondis-je. Le poids des émeraudes tirait toujours ma poche. Je savais qu'elle ne refuserait pas de les donner.